Bonjour, bienvenue dans le quartier de Saint-Cyprien. Avant de commencer, allez donc vous placer à côté du banc, près de la sortie du métro, en face du magasin Trophime Fourrure. Alors je me présente, je suis la voix off. C'est moi qui vous accompagnerai durant cette balade sonore. Vous allez circuler pendant un peu plus d'une heure dans ce quartier, à l'écoute de celles et ceux qui y vivent, et je vous y guiderai, de rue en rue, de lieu en lieu. Les voix que vous entendrez dans cette balade sont celles d'habitants et d'habitantes de Saint-Cyprien, de travailleuses sociales, d'acteurs associatifs, d'enfants d'exilés espagnols, d'anciens médecins hospitaliers, de bouchers, de serveurs et de restaurateurs, d'anciens personnels des abattoirs. Quant à moi, je vous donnerai toutes les instructions nécessaires pour ne pas perdre le fil de la balade. Prenez le temps de vous promener, suivez le rythme de mes pas. Et surtout, rappelez-vous que vous êtes autonome, n'hésitez pas à mettre pause quand vous le souhaitez. Ah oui, autre chose, beaucoup de lieux du quartier ne sont pas racontés dans cette balade. Eh oui, elle ne dure qu'une heure et ne peut pas être exhaustive. D'autre part, chacun et chacune exprime son regard personnel sur le quartier et leurs voix peuvent parfois être contradictoires. Allez, j'ai assez parlé. Vous êtes prêts? On démarre. Vous voyez le bistrot 12 sur votre droite? Cette grande terrasse qui fait l'angle avec la rue du Pont-Saint-Pierre? C'est cette rue qu'on va prendre. Vous traverserez pour la remonter sur le trottoir de droite jusqu'au premier croisement. À l'origine, Toulouse était concentrée rive droite de la Garonne et Saint-Cyprien était un faubourg, une porte d'entrée. Aujourd'hui, les choses ont bien changé.
Tout à l'heure, quand je suis allée chercher ce plan-là à la gare, la fille me dit « j'ai quelque chose, mais c'est juste le centre-ville ». Je lui ai dit « montrez-moi ». Moi, je cherchais Saint-Cyprien, je l'ai vu, mais elle m'a dit « je n'ai qu'un plan du centre-ville ». Donc Saint-Cyprien, il est dans la ville, dans le centre-ville.
C'est pratiquement, c'est dit que c'est le deuxième centre de Toulouse, oui. Mais quand même, où nous sommes placés, c'est pas bruyant comme dans le centre. On est en centre-ville tout en étant tranquille, quoi. Voilà. C'est quand même pas trop embêté.
C'est génial, on est en ville, on peut tout faire à pied, on a tout à côté, on gagne un temps énorme. Il y a des jolies places avec des petits bars et des terrasses. Et c'est assez populaire avec un bel esprit, c'est-à-dire on peut aller boire un bon verre de vin, manger des bons petits produits locaux à l'heure de l'apéro.
Et t'as beaucoup de restaurants, les cafés, il y en a dans tous les angles de rue. Le soir, c'est très animé, alors les rencontres se font facilement. Et quand tu viens plusieurs fois à un endroit à manger ou à boire un café, déjà les gens te reconnaissent, quoi. Ils te reçoivent d'une autre manière, ça crée un peu... des liens quelque part avec les gens.
Les jeunes, ils viennent à Saint-Cyprien, ils ne venaient pas avant. Ils vont y manger, ils vont y boire. C'est-à-dire, on vient là pour l'ambiance, pour boire. On se donne rendez-vous avec des copains et après, on fait la connaissance de l'un, de l'autre, etc. Et on rencontre des gens.
On va prendre la prochaine rue à droite.
Parce qu'il y a, à certains moments, il y a un monde fou. Et ça fait une vraie vie. Il n'y a pas que les jeunes qui se comportent comme ça. Ce sont ces lieux. Ces lieux qui sont plus ouverts sur l'extérieur que le café lui-même. Les cafés, ils sont tout petits. Donc, les consommateurs, ils viennent, ils sont sur la place. Ça change tout. Ça fait partie de la vie, de la ville.
Vous allez m'attendre au bout de cette petite place, sous le panneau sans interdit, à côté de l'école de coiffure ABCDR. Parmi les lieux de vie du quartier, il y a notamment un resto chilien, El Rincón Chileno. Pas loin d'ici.
Je connais le Rincón depuis à peu près 2 ans, mais j'y travaille seulement depuis quelques mois. J'ai l'impression que dans ce restaurant là aussi, c'est un resto familial en fait. Quand ils reçoivent les gens, limite, s'assoient à côté de toi, ils te parlent un peu, tu vois, de tout et de rien, avant de prendre la commande ou même pendant que tu manges. C'est trop drôle même parce que les gens, ils arrivent, ils vont directement saluer la patronne ou le patron. Parce qu'ils sont premièrement déshabitués. Et puis après, c'est un peu la façon dont ils marchent, quoi. Quand tu verras Hector, c'est le patron, et Vicky, c'est la patronne. Hector, il a toujours la blague au bout des lèvres, tu vois. Il met à l'aise tout de suite, quoi. C'est ça qui fait un peu le truc spécial de ces restaurants.
Ça y est, vous êtes arrêté au niveau du panneau. Regardez derrière vous. Vous voyez la façade jaune au bout de la rue, après le carrefour. C'est le Rincón Chileno. Ici, on est place de l'Estrapade, un endroit assez animé.
Il y a pas mal de fêtes dans le quartier. Il y a la fête de la moule, de la châtaigne, la fête de quartier, mais aussi ils font leur paella. Alors qu'est-ce qu'ils font d'autre? veux dire, il y a plein d'initiatives de petites dates de fêtes parce que ça fonctionne, quoi. De barrières, on ferme de rues, on a des espaces et voilà.
En gros, si tu veux, c'est mettre des stands et puis il y a pas mal de musiciens qui viennent aussi donner un coup de main, tu vois. Et ça attire beaucoup de monde, en fait. Et tu peux, t'as des tables pour t'asseoir et manger tranquillement. T'as un espace pour danser. C'est vraiment un petit festival, ouais. Et tu vois, dans cette partie-là, il y a pas mal de restaurants et de bars. Et quand il y a la fête comme ça, la rue Clusane, tu vois, parfois, il te manque un fût. Il passe un coup de fil, il va chercher un fût au Petit Vasco, par exemple, tu vois. Et il s'arrange comme ça, en fait, tu vois. C'est pas, il y a de l'entraide, en fait. Tu vois, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, et pour les fêtes comme ça, ils se donnent la main, quoi. Ils font pas la compétition, quoi. Du coup, ça crée une bonne atmosphère.
Maintenant, il y a des cafés culturels associatifs. Il y a beaucoup, moi, je trouve beaucoup d'associations à Saint-Cyprien. J'en découvre vraiment des ateliers de couture. Alors ça, c'est un truc de fou. Il y a vachement d'ateliers de couture à Saint-Cyprien, quoi.
On repart ? Continuez sur le même trottoir.
Il y a une émergence, là, de petits commerces, de petites épiceries. On en voit beaucoup en centre-ville, mais on n'en voyait pas trop à Saint-Cyprien. Et ça, je trouve que c'est positif. Bon, si les petits commerces ils s'installent, c'est que les gens, ben, ils vont aller dans leur quartier et puis peut-être éviter d'aller dans les centres commerciaux ou autres. Il y a du local, il y a un nouveau boulanger, il y a deux nouveaux commerces, un bio, un autre aussi, c'est que du commerce en vrac.
Dans la rue de la République, tu peux trouver 20 coiffures, des kebabs et tout. Du coup, ça s'est renouvelé en fait. Je sais pas, ça reste à voir un peu comment ça va évoluer le quartier, je pense.
Si on ne fait pas vivre les commerces du quartier, ils vont fermer. Il faut y aller, quoi. Alors des fois ça coûte peut-être des fois un peu plus cher que certains trucs, mais la qualité elle y est, quoi. Et on s'y trompe pas.
Vous allez vous arrêter au bout de la rue et m'attendre place Olivier, au pied du coq, sur votre gauche.
Je privilégie les commerçants d'en bas de chez moi parce que j'ai envie qu'ils restent pour éviter d'avoir des agences immobilières et des assurances.
Vous le savez peut-être, après la guerre, la vie qui anime ce quartier a été structurée par l'immigration espagnole.
Je me souviens d'avoir entendu dire que Toulouse, c'était la seconde capitale d'Espagne.
En 44 ou 45, je crois qu'ils ont évalué à 20 000 réfugiés qui étaient restés à Toulouse. Donc si on fait un calcul rapide, on imagine que ces 20 000 se sont mariés, qu'ils ont eu des enfants, je veux dire, ça finit par être pas exponentiel, mais presque, quoi. Donc effectivement, la communauté a continué à grossir et voilà.
Vous êtes au niveau du coq ? Nous voici place Olivier, au croisement avec la rue de la République. Dans cette rue, un peu plus loin sur votre droite, on peut voir un bâtiment avec trois arcades. C'est le numéro 48 qui abrite aujourd'hui une crèche municipale. Mais ça n'a pas toujours été le cas.
La porte du 48 était ouverte. Donc, il fallait traverser le couloir et traverser le jardin. Mais on entendait quand même qu'il y avait des choses qui se passaient. Donc, il y avait des gens qui venaient voir.
C'était loué au groupe qui était Terra Lliure, qui était un groupe catalan d'obédience plus ou moins libertaire et qui faisait du théâtre, qui avait des activités. Et ce local qui était, c'était un ancien atelier de confection, je pense, un ancien atelier, donc bon, c'était assez grand. Bon, ça servait un petit peu d'adresse pour des tas d'organisations, d'associations, de ça. Et c'est aussi le siège du club de foot, des jeunesses libertaires aussi. Donc,
On y faisait aussi des représentations de théâtre, de danse folklorique espagnole. Et puis on y faisait toutes les répétitions.
Il y avait une nécessité d'avoir de l'argent, hein, pour faire fonctionner tout cela, et d'autre part pour continuer la lutte antifranquiste de l'autre côté des Pyrénées. Et donc du coup, il y avait un bal qui était organisé tous les samedis soirs et tous les dimanches après-midi. Et puis il y avait aussi des meetings, des conférences, et même je me souviens de séances de cinéma.
Voilà. On repart ? Prenez la rue de la République sur votre gauche.
C'était un lieu de retrouvailles, parce qu'il y avait les réfugiés politiques, mais après il y a eu les autres, voilà, qui sont arrivés tout seuls, qui se retrouvaient dans Toulouse, heureusement que c'était espagnol, mais ils cherchaient quand même un endroit où pouvoir discuter, voir s'ils ne retrouvaient pas un copain, voilà, etc. Et donc c'était quasiment à 90%, c'était des Espagnols, bon, hein, qui étaient là.
Et dans ce moment de discussion, parler de l'Espagne, de cette Espagne qui leur était interdite, de tout ça. Mais il y avait aussi des Français, il y avait un peu de tout. Hein, dans cette rue de la République, il y avait un peu de tout.
Mais ça a toujours été le quartier Saint-Cyprien. Hein. Mmh. Ça a été bon, les Italiens, les ça Gitans. A été les Gitans, bien sûr. Les Gascons, qui arrivaient sur Toulouse, ils s'arrêtaient porte Saint-Cyprien. Hein,
qui était
en quelque part la Gascogne encore. Voilà. Donc c'est pour ça. Et bon, après, il y a eu les Espagnols qui ont été majoritaires. Mais je veux dire, ça a toujours été... Saint-Cyprien a toujours été la porte de Toulouse d'accès pour tous ces gens-là. Quoi.
Aujourd'hui encore, cette rue accueille différentes populations.
Il y a beaucoup d'ethnies, latinos, afro, arabes, français. Tu es surpris plus facilement en fait. Tu as le côté gastronomique, le côté culturel, interculturel. C'est ça le charme en fait. Cette différence des points de vue que tu peux trouver dans un coin. Quoi.
C'est un endroit où... Si quelqu'un cherche à manger africain, il trouvera des magasins, se coiffer pareil, ainsi de suite. Quoi. C'est vraiment l'endroit cosmopolite un peu.
Moi, pour moi, c'est une rue qu'on vient pour chercher tout ce qu'on trouve en Afrique, un peu. Beaucoup de coiffes, beaucoup de... Pour, qu'il soit pour les hommes ou qu'il soit pour les femmes, des tissus, beaucoup d'épices. C'est tout ce que je sais.
Ça, il faut le dire, ça fait partie du cœur de Toulouse, quoi, qui est une rue qui a son importance à Toulouse. Quoi. Et vivante, très vivante même.
Oui, c'est dynamique pour ceux qui recherchent spécifiquement les produits exotiques. Sinon, en dehors de ça, il y a effectivement des magasins. C'est pas très varié quand même. Hein.
Il y a Sénégal, Togo, Congo, un petit peu de tout.
Avant, il me semblait qu'il y avait davantage de magasins et de monde. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai 83 ans, alors c'est sûr que...
C'est une vie que nous, on ne vit pas. Mais je pense qu'il y a une vraie relation avec les coiffeurs afro, tout ça. Là. Il y a l'air d'avoir de l'interaction avec les commerçants africains et caribéens. Il y a de la vie, quoi.
J'y vois la mixité, la convivialité. Voilà, c'est ça, le partage, tout ce que Toulouse sait accueillir, c'est-à-dire les gens sont mélangés, ce qui est très important pour nous, voilà. Et c'est ça, la rue de la République. S'il n'y avait pas les voitures, ce serait absolument parfait.
Ah oui, c'est ça, moi je trouve que c'est un quartier qui est vivant. Il y a un mélange de tout, ça représente bien l'avenir, quoi.
Quand vous serez au bout de la rue, vous prendrez à gauche dans la rue Viguerie.
Très souvent, il y a des échanges de paroles, des petits commentaires, on rit les uns les autres. C'est... Non, moi je la trouve agréable, je trouve que c'est une rue vivante tout de même.
La rue de la République dont on parlait, à l'époque, c'était des commerces vraiment de proximité, où les gens qui habitaient là, ou ceux qui travaillaient autour, allaient dans ces commerces de quartier.
On vivait avec le quartier, c'est-à-dire qu'il y avait le boucher, le chevalet, il y avait les halles, il y avait le marché, il y avait le quincailler, il y avait plein de trucs. C'est une ville. Hein.
J'ai le souvenir des caniveaux où il y avait à boire et à manger, spaghetti et compagnie qui se baladaient, et de rémouleurs qui passaient en criant, voilà, des vitriers qui passaient, les ramasseurs de poubelles, les éboueurs qui passaient à cheval. C'était le quartier des brouilles. Il y avait de quoi faire sans avoir... Beaucoup, qualifications, quoi. Hein.
Mes grands-parents donc faisaient partie, si vous voulez, de la communauté des gens du voyage. Donc mon grand-père, qui savait ni lire ni écrire, mais qui avait une intelligence supérieure, il savait tout faire. Tout ça pour vous dire que bon, il vivait ici. Et le mercredi, moi, de 12-13 ans, on allait récupérer la ferraille avec une charrette et on allait récupérer la ferraille.
Tournez de nouveau à gauche dans la grande rue Saint-Nicolas.
Moi, je me souviens du côté de la rue Saint-Nicolas, la rue des Novars, tout ça, là, dans ces coins-là, des gens qui avaient un cordonnier qui s'était installé. C'était bon. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait tout un tas de petits métiers et de gens comme ça. Donc, ils avaient quand même des petits métiers qu'ils ont installés, souvent chez eux même, voilà, et qui faisaient que des couturières, des... Je me souviens d'une voisine qui tressait les chaussures à la maison. Elle travaillait à la maison et elle tressait, vous savez, les chaussures, le dessus des chaussures, qui ensuite partait à l'usine pour être confectionnée en chaussures. Voilà, c'était des petits travaux comme ça.
À l'époque, on vendait même les peaux de lapin.
on tuait un lapin et il fallait le mettre sécher. À l'époque, 10 sous, 20 sous, 2 sous, je ne sais pas, je ne m'en rappelle pas maintenant. Et il y avait les piarottes qui passaient. Le piarotte, on l'appelait. C'est ceux qui criaient dans la rue, piarotte, peau de lapin.
Piarotte, il criait.
Maître Camisotte, marchand de plumes et de peyote, il disait. Et il passait dans les rues. Il allait, son dépôt, comment on peut, je sais pas, voilà, son dépôt, il était place Olivier.
Et ramassait tous les gens qui avaient le peau de lapin à vendre, aussi ou là.
Les gens lui donnaient tout ce qu'ils avaient à jeter, quoi, les vieilles payes, les vieilles affaires.
Et on nous faisait même peur avec ça, parce que quand on était petit, quand le pierrotte passe, je vais te donner au pierrotte. Il avait un grand sac dessous. Quand on était jeune, on nous faisait peur avec ça.
Il y avait ça comme personnage. Il y avait aussi une dame qui venait de je ne sais pas où et qui vendait le mia. Qui veut du bon fromage, qui veut du bon mia. Elle devait faire aussi du fromage. Et elle passait dans les rues et elle vendait son mia, c'est son fromage.
Mia, c'est de la farine de maïs qu'on fait bouillir dans de l'eau, qu'on cuit et après on fait cuire, ça fait comme une pâte. Le mia, c'était très connu, donc on le découpait et après on allait le vendre dans Toulouse. On allait le vendre à la charrette, quoi.
Il faut imaginer une époque où les maisons qui nous entourent étaient moins agréables à vivre qu'aujourd'hui.
Il faut dire que nous n'avions pas peut-être des moyens extraordinaires, donc effectivement, les logements auxquels nous avions accès n'étaient pas très équipés, hein, n'avaient pas les commodités, donc on n'avait même pas l'eau courante, il fallait aller descendre dans la cour pour aller chercher de l'eau. Les propriétaires refusaient que l'on installe l'eau. On peut parler de chauffage, bon, ben, c'était un chauffage soit au charbon ou alors après, un peu plus tard, c'était au fioul. Mais bon, ça ne m'a pas vraiment perturbée plus que ça, quoi. Ben, c'était comme ça, ben, tout le monde avait... On était peut-être plus habitués au froid, au chaud, enfin aux différences. On était moins douillés peut-être que maintenant, je ne sais pas.
Vous prendrez à droite, rue Sansoubra.
Quand on est arrivé à Toulouse, eh bien, on a été très très étonnés de voir qu'il n'y avait pas de douche, qu'il y avait un WC commun dans la cour, qui était vraiment limite. Donc, deux fois par semaine, nous allions au bain-douche de la place Saint-Cyprien. Voilà.
À 10h aux heures, le samedi matin, tu avais une heure de queue pour aller à la douche. On était là avec nos serviettes, notre savonnette. Bon, mais en même temps, c'était super marrant, quoi. C'était super sympa.
Et c'était là le rendez-vous d'été de tous les gitans, de soir, qui sortaient. Tous les gitans étaient assis pour prendre le frais. Et tout le monde l'été se mettait devant la porte, assis comme ça, une tricotée, l'autre lisait, une autre racontait une histoire d'un bout à l'autre. Et se disait des bêtises, rigolait. Et on sortait, les jeunes... quartier, on jouait à la marraine, là, à 7-8 ans. Il ne fallait pas grand-chose pour s'amuser à l'époque. Hein. Avec soit une corde à sauter, soit à la marraine, comme on dit. C'était le parent qui est à l'époque. Ou soit alors avec une bobine de fil, du canevas. Et il n'y avait pas les jeux qu'il y a maintenant.
Tous les jeunes s'amusaient, on jouait au boule, on jouait au rugby, parce qu'il y avait le stade toulousain qui n'était pas loin. C'est un quartier qui avait quand même deux cinémas à l'époque.
Les Dains et Saint-Cyprien qu'on appelait. Alors c'était surtout le Saint-Cyprien, c'était le cinéma des Gitans. Et les Dains, c'était pour les gens un peu plus qui craignaient les Gitans.
Vous prendrez à droite rue Kilmery.
Moi, j'ai connu ça parce que bon, je le savais, quand il y avait des films ou que des choses, nous, hein, on n'avait pas le droit à mon père, mon pauvre, et on n'allait pas au cinéma comme ça. Hein. Il ne fallait pas sortir comme ça. Et place Estrapade aussi, il y avait un petit bistrot que le dimanche ou n'importe, on faisait un petit peu le bal le soir. Et donc là, bon, c'était pas grandiose. Hein. C'est quelques-uns du quartier qui voulaient sortir et ils allaient là, les jeunes, voilà, danser. Il y avait plusieurs endroits ici qui faisaient bal comme ça pour les jeunes, avec des personnes qui voulaient qu'ils sortaient, quoi.
De temps en temps, on se réunissait, tu avais un mec qui avait une guitare ou qui avait un accordéon, et puis on se foutait à jouer dans la musique. Bon, pendant l'été, surtout, tu vois, on faisait la fête sur le trottoir.
Prochaine à gauche, rue des Novares. On va se diriger vers l'hôpital La Grave.
Donc si tu veux, chaque fois qu'on était au bistrot, qu'on faisait la fête ou qu'on faisait les cons, on essayait qu'il y ait tout le monde. Et donc il y avait cette espèce d'ambiance, moi, que je qualifierais de joyeuse. Hein. Et oui, enfin fraternelle, je ne sais pas si le mot est fort, mais c'était ça.
Il y avait aussi beaucoup d'entraide. C'est-à-dire que si on avait besoin de quelqu'un ou de quelque chose, on allait voir les copains, ils venaient vous aider. En contrepartie, vous leur offrez, voilà, mon père, il offrait la mécanique, puisqu'il était mécanicien, donc il leur réparait la petite moto, le petit vélo. Et puis après, quand ils ont pu avoir une petite voiture, eh bien aussi, des choses comme ça. Quoi.
La porte était ouverte, quoi. En plus, ma mère avait une épicerie, notre mère, donc... il y avait toujours, nous on laissait souvent notre lit pour les gens qui arrivaient. On se mettait un peu, mais enfin, parce qu'on était jeunes, on était gamins, voilà.
Saint-Cypre, Saint-Cyprien, et c'était le prolétaire, quoi. C'était les gens qui avaient le tout venant, c'était les gens qui n'avaient pas de, qui avaient pas de piston pour avoir un appartement, qui voulaient avoir un HLM, qui étaient obligés de se loger dans des trucs assez misérables. Et donc, c'était à Saint-Cyprien où on pouvait trouver ce genre d'appartement. Donc, voilà, on se retrouvait à Saint-Cyprien. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, on n'en souffrait pas.
Oui, c'était ouvrier. Il y avait des gens qui travaillaient à l'ONIAT, les employés de l'hôpital. Et enfin, voilà. C'était le coin populaire de Toulouse. Hein. Rue de la République, il n'y avait pas des gens très riches. Hein. C'était pas... Bon, voilà. D'ailleurs, la bourgeoisie ne venait pas trop. Et pour la bourgeoisie, la rive gauche, c'était... Hein, bon, la promiscuité, c'est pas... Voilà.
Vous irez m'attendre au pied de l'escalier qui sera sur votre gauche, au bout de la rue.
C'est un village dans la ville, quoi, hein, je veux dire. Bon, moi, je me souviens, gamin, avec mes copains, on disait, on va en ville.
Moi, j'allais pas en ville, hein. Je connaissais pas. Quand j'étais gosse, j'y allais pas souvent. Hein. C'était une expédition, hein, pour aller au centre. En plus, il y avait rive gauche et rive droite. Hein. Donc, rive droite, tu vois, et rive gauche, c'était les autres. Donc, déjà, ça bloquait, ouais.
Je sais qu'après, quand je suis allée au lycée en ville, donc, au lycée Saint-Cernin, les gens qui venaient de Saint-Cypre...
Ça a toujours été.
On n'était vraiment pas très bien vus, quoi. Il fallait faire ses preuves de plutôt deux fois qu'une, quoi. Ouais.